Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette première rencontre de notre cycle Temps présent lors de cette foire du livre de Brive-la-Gaillarde, cycle du temps présent qui cette année s'intéresse à la question du travail sous toutes ses formes. Jusqu'à la fin de ce week-end, vous pourrez suivre une série de 5 conférences autour de ce thème du travail. Et nous ouvrons le bal aujourd'hui autour de la question du sens du travail, du goût du travail. Et nous aurons ce bal avec 3 Corréziens. Je serai le seul, hélas, à déteindre un petit peu sur ce plateau, mais nous avons la chance d'avoir 3 Corréziens de cœur et de raison, qu'on va faire un peu travailler justement autour du travail et de ce thème, comment redonner le goût du travail. Pour en discuter avec nous pendant un peu moins d'une heure, monsieur le maire de Brive-la-Gaillarde, Frédéric Soulier, bonjour. À vos côtés, Marilyn Charpentier, directrice des ressources humaines au sein du groupe Fori. C'est un groupe spécialisé dans la distribution de poids lourds et de véhicules légers et dont la maison mère se situe à Brive.
Exactement, depuis plus de 90 ans.
Et enfin, Pascal Perry, journaliste, éditorialiste, auteur notamment de nombreux essais, mais auteur notamment des essais 4 idées pour renforcer le pouvoir d'achat, Le Péril Vert ou encore Génération Farniente, aux éditions de l'Archipel. Alors, je disais, le thème de cette rencontre sera comment redonner le goût du travail. C'est une question un peu provocatrice parce que ça voudrait dire 2 choses. Ça voudrait dire, 1, que ce goût du travail, on présuppose qu'on l'a perdu. Et 2, on présuppose même qu'on avait auparavant le goût du travail et qu'il aurait disparu. C'est presque une question politique, monsieur le maire, cette question de ce goût du travail. Est-ce qu'il y a eu une France du travail qui serait aujourd'hui en péril ou qui aurait aujourd'hui disparu ?
Alors, je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si ce monde-là était un monde d'avant et s'il y a un monde d'après ou un monde nouveau. J'avais déjà entendu ça quelque part. On n'en sait trop rien. On est un peu d'ailleurs complice, on est un peu responsable ou on subit les évolutions du monde. Et le travail en fait partie. Hein. Si on raisonne simplement ou si on pose 2 minutes les choses et de façon générale, on sort d'une guerre il y a quelques dizaines d'années, même si on n'est d'ailleurs pas complètement sorti à l'échelle de la planète, mais en tout cas celle qui nous concerne sur l'Europe. On en sort, on est dans une société de privation, on est dans une société de pénurie, et puis tout d'un coup d'un seul, on rencontre la société de consumériste, hein, de la consommation. Et évidemment, dans la consommation, on a aussi consommé le mode du travail. Et évidemment, la valeur du travail au travail a évolué avec l'ensemble des réformes et l'ensemble des actions politiques des différents gouvernements successifs. Sans doute, mais là, l'heure nous manquera, savoir si les réformes ont été... intéressante, s'il faut en faire d'autres, s'il faut les ajuster. Ce que je crois d'ailleurs profondément, c'est qu'une réforme, elle est peut-être valable à l'instant T, mais à l'instant T1, déjà, elle est peut-être très ancienne et elle est nécessaire parfois de l'adapter. Donc cette société qui est en mouvement, cette société consumériste, bien le travail est une des clés. Alors c'est pas la seule clé, mais en tout cas, et à l'évidence, nous sommes, je crois d'ailleurs, l'homme sur Terre, il est profondément fait pour 2 choses. 1, aimer. Et 2, travailler. Et que ces 2 faits-là, c'est pas un qui s'oppose à l'autre. C'est les 2 doivent marcher ensemble, et simultanément et en même temps. Et donc, dans les valeurs du travail au travail, il est certes certain, là aussi, en termes de pénibilité, en termes d'organisation de travail, en termes de modèle de travail et d'outils de travail, les choses ne ressemblent pas à celles d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je pense que le livre, d'ailleurs... de Pascal Perry, excellent livre, qui nous permet là aussi de réfléchir autrement et puis d'avoir un constat qui n'est pas un constat, qui est plutôt un constat froid, malheureusement parfois très froid, mais qui nous amène aussi un peu à réfléchir dans une forme de conscience collective, et que le monde politique parfois fait des erreurs. La réforme du temps de travail, la réforme des retraites... Alors pardon, je ne veux pas soulever de mouvement de contestation sur ce que je viens de dire, mais ça aussi c'est un constat très froid. Quand on a un temps de travail qui se réduit pour une question de partage, quand on a un temps de travail dans la durée qui se réduit en termes de nombre d'années, alors que quand ça a été pensé, simplement rappelez-vous, le 1er avril 83, c'est-à-dire il y a 50 ans, le 1er avril 23 est passé depuis quelques mois, ça fait 50 ans que l'arrêté de la retraite de 65 est passé à 60 ans. À l'époque, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a 1,7 actif pour un retraité. La donne mathématique change complètement. Et donc, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la notion de réforme. La politique, c'est aussi une question de chiffres. Et dans la traduction des chiffres, parfois, les politiques ont souvent feinté, écarté la notion des mathématiques. Et donc, pour nous, aujourd'hui, quand on a aussi un pays qui a pensé qu'à un moment donné, il y a plus de 20 ans, qu'il fallait partager le travail, ben on trouve qu'aujourd'hui, et moi froidement, ces deux réformes fondamentales n'ont pas réglé la question de la valeur du travail au travail. Elles ont certes modifié par conséquent, dans une question aussi où aujourd'hui où on rentre sur les questions de RSE, de responsabilité sociétale environnementale, où toutes les entreprises, y compris ici, sont très affûtées sur ce sujet. On voit que cette question-là, finalement, a bousculé quelques postures, a amené parfois des débats très clivants entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et au final, on voit que finalement, dans un contexte dans lequel nous vivons, ça ne règle pas le problème du partage du travail parce que les 35 heures n'ont fait qu'à peine 300 000 emplois nouveaux créés. Par contre, elles ont divisé la France. Elles ont sûrement éloigné les Français de l'organisation du travail de l'après-guerre à aujourd'hui, ou même dans les années à forte valeur ajoutée et à forte croissance. Et donc on se rend compte que parfois, ces modèles de réforme, eh bien, ont parfois fait plus de mal que de bien. Surtout quand il s'agit de reconstruire en permanence une France qui se trouve sur une Europe, qui se trouve dans un monde, et que dans un monde avec des continents et des pays émergents. Donc on est vraiment sur des situations macro, enfin des conséquences micro avec une organisation macro. Et donc quand on fait ce point-là, et j'en finirai par cette réflexion, toutes les transformations sociétales et sociales ont forcément des conséquences, et nous devons être responsables aussi de pouvoir ajuster, affiner toutes ces questions sur cette notion notamment de la place de l'homme dans le travail et la place de l'homme dans l'entreprise.
Pascal Perry, je le disais, vous avez publié cet essai que Frédéric Soulet vient d'évoquer, Génération Farniente. Est-ce que cette génération Farniente, c'est une génération de jeunes gens qui arrivent aujourd'hui sur le monde du travail et qui voudraient un peu se la couler douce, les pieds en éventail? Ou est-ce que cette génération Farniente, ben en fait, c'est une génération de Français, de la France entière, qui serait la conséquence des réformes que vient d'évoquer Frédéric Soulier, ou d'ailleurs d'évolutions plus larges sociologiques?
Je pense que le corps social a oublié une constante de l'histoire sociale française, c'est que la France moderne s'est bâtie dans le travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui? C'est essentiellement la France de la protection sociale. C'est-à-dire qu'on a choisi en 1945 un modèle, celui du Conseil national de la résistance, qui était adossé au travail. C'est-à-dire qu'on passe d'une société de l'assistance à une société de l'assurance. L'assurance par le travail. C'est parce que les gens travaillent qu'ils produisent des droits. On passe donc d'un monde qui était un monde de générosité, volontaire ou involontaire de l'État, à un monde dans lequel on explique aux Français qu'en travaillant, ils vont produire leurs propres droits. Alors, c'est un droit à la retraite, c'est un droit à la protection sociale, c'est la naissance de la sécurité sociale, et c'est la quantité et la qualité du travail en France qui produisent le modèle généreux dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si nous avions aujourd'hui, un exemple extrêmement simple, si nous avions aujourd'hui le taux d'emploi de l'Allemagne, nous aurions chaque année 100 milliards de recettes publiques supplémentaires. Ce ne sont pas des points de PIB, ce sont des recettes publiques supplémentaires. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 100 milliards d'euros de recettes supplémentaires? C'est-à-dire qu'on assure définitivement le système des retraites, on assure définitivement la protection sociale des Français, et pas simplement pour la génération d'aujourd'hui, mais pour toutes les générations qui viennent. Par conséquent, donc, le travail, c'est un élément fondateur. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait cet effort d'explication auprès d'une partie de la jeunesse. Alors, pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas une génération farniente en France. Il y a des générations, et de façon générale, je n'aime pas beaucoup ce qui réduit les choses. Il y a encore en France un bon tiers de Français qui travaillent beaucoup plus que les 35 heures légales. Souvent, d'ailleurs, ce sont des professions libérales. Ce sont des chefs d'entreprise, des artisans. Ce sont aussi, dans certains cas, des fonctionnaires qui sont très engagés, des salariés du privé. Il y a un tiers de gens qui travaillent moyennement. Et puis, il y a un tiers de gens qui sont dans ce que j'appelle le halo de l'inactivité. Et c'est probablement le sujet auquel on doit réfléchir aujourd'hui. Je pense que ça interroge tout à la fois les pouvoirs publics, ça interroge aussi les chefs d'entreprise. Il faut se demander pourquoi il y a une forme de résistance au travail. Alors, il y a de nombreuses explications. D'abord, il y a un fond de l'air dans la société qui est plutôt au non-travail. Moi, j'ai cherché à les différentes étapes qui ont conduit au changement de modèle. La société du XXe siècle, c'est la société du travail. Effectivement, Frédéric résume parfaitement les choses. On passe d'une société de subsistance à une société de consommation dans laquelle c'est le travail qui produit le bien-être, alors le bien-être économique et le bien-être social. Aujourd'hui, le fond de l'air est un peu différent. Les deux ou trois étapes qui, à mon avis, marquent le changement de philosophie, de regard qu'on porte collectivement ou de représentation qu'on a collectivement sur le travail, c'est d'abord la grande crise économique et industrielle des années 80. C'est-à-dire là où les Allemands vivent la même crise et décident d'investir massivement dans la modernisation de l'outil de travail, la France choisit l'accompagnement social de la désindustrialisation. Et on trouve normal qu'il y ait en France des gens en pré-retraite à 52 ans, ce qui est absolument, évidemment, anormal. D'abord d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue humain, parce que le travail est une forme d'émancipation. Il y a en effet ensuite la loi des 35 heures, et puis il y a la période du Covid. Alors on en parle assez abondamment, mais pas toujours de façon très scientifique. Quand j'ai interrogé des chefs d'entreprise de toutes les tailles, d'ailleurs, pour construire ce récit, tous ont utilisé la même formule en disant « le Covid a été pire que les 35 heures ». C'est-à-dire que ça a eu un effet de catalyse, si vous voulez, sur les 35 heures. Et il y a beaucoup de Français qui ont découvert que le temps libre était très agréable, qu'on pouvait rester chez soi en étant payé. Enfin, la France est quand même le seul pays d'Europe dans lequel 11 millions de salariés du secteur privé ont été payés pendant plusieurs mois par l'État à rester chez eux. Donc ça a catalysé, si vous voulez, un fond de l'air de caractère philosophique dans la société, dans le cadre de la représentation qu'on peut avoir du travail. Au XXe siècle, c'est le temps professionnel qui structure le temps de vie. Il y a une génération aujourd'hui pour qui le temps de vie personnel doit structurer la vie, et le travail, au fond, est une espèce d'accessoire dans cet ensemble. Il y a cet élément, et puis il y en a un autre qu'on va évoquer, j'imagine, qui est la mauvaise gouvernance, dans certains cas, des entreprises, qu'on appelle le mismanagement. C'est-à-dire qu'en réalité, on a importé en France un modèle qui est un modèle très monarchique, très napoléonien. On part du haut pour aller vers le bas. C'est un management par circulaire, par directive, dans lequel le travail d'explication n'est pas toujours conduit. Et vous avez aujourd'hui, sur le marché du travail, des jeunes gens qui recherchent peut-être pas du sens, mais en tout cas une explication de leur présence dans l'entreprise. Ils se posent des questions simples. À quoi sert mon travail ? Quelle est l'utilité économique et sociale de mon entreprise ? Et c'est toutes ces questions qu'il faut pouvoir régler si on veut répondre à la génération Farniente.
On va y revenir justement sur ces questions. Marilyn Charpentier, pour répondre un petit peu et pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable, on est aujourd'hui à un niveau de chômage qui est le plus bas depuis assez longtemps. Est-ce que vous-même vous constatez, en tant que dans votre profession, je rappelle, directrice des ressources humaines, une forme de réticence des Français vis-à-vis du travail ?
Alors, je ne serai pas aussi réductrice. Effectivement, il y a une évolution des mentalités. On la ressent. Le travail n'est pas la priorité absolue. Et ça a beaucoup évolué. Il y a d'autres aspirations. J'ai envie de dire que le travail est un moyen. Je ne dirais pas un accessoire, mais quand même un moyen de conduire la vie à laquelle on aspire. Ça, on le ressent très nettement. Après, je suis plutôt dans les symptômes de tout ce que M. Perry et M. Soulier ont décrit. C'est-à-dire que je vois arriver effectivement des gens. Je ne les trouve pas moins engagés qu'avant, mais c'est beaucoup plus difficile de les fidéliser. Ça, c'est une évidence. Parce que le marché s'y prête. Le marché est très ouvert. On a créé des conditions qui sont parfois difficiles dans nos entreprises. Il ne faut pas oublier que la période Covid, mais surtout la période post-Covid, nous a amené à avoir des organisations qui ont fonctionné pendant très longtemps en mode dégradé. Vous aviez des gens qui étaient en arrêt Covid, des cas contacts. Moi, j'ai des entreprises qui se retrouvaient des fois avec 80% de moins de l'effectif pour ces raisons-là. Et ça tire énormément sur ceux qui sont présents. Parce que quand vous avez des absents, il faut compenser avec les présents. Donc effectivement, J'ai envie de vous dire que d'un point de vue symptomatique, oui, je retrouve ce qui s'est dit pour l'instant, mais je ne parlerai pas de désengagement. Je trouve qu'ils sont assez engagés quand ils sont là, mais c'est plutôt les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent qui se sont dégradées et qui font que le marché étant très ouvert, ayant effectivement cette possibilité aussi aujourd'hui de pouvoir rester chez soi sans travailler parce qu'on a un système social qui le permet, eh bien effectivement, on se retrouve à constater la même chose que tout le monde. C'est très, très difficile aujourd'hui de recruter.
Juste un mot, le marché du travail, c'est un marché classique de l'offre et de la demande. Donc il faut également observer l'évolution de la démographie. C'est-à-dire quel est le stock de personnes en situation de travailler. Alors, ça exclut de la population les beaucoup plus jeunes, et puis ça exclut aussi une partie des gens qui n'ont pas de formation pour accéder aux emplois, sur un marché qui s'est complexifié. Il y a encore une trentaine d'années, des écoles de la deuxième chance, vous savez, pour ceux qui n'avaient pas réussi leurs études. Typiquement, le secteur de la grande distribution pouvait commencer comme employé libre-service et puis terminer comme directeur de magasin, voire directeur de groupe. Cet escalier social, je préfère parler d'escalier que d'ascenseur, parce que l'escalier, il faut faire des efforts pour monter. Cette population-là, elle appartient à une catégorie qu'on appelle les NEETs en anglais. Il y a des gens qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas en stage et qui n'ont pas d'emploi non plus. Et puis, il y a une partie de la population qui est plutôt vieillissante et qui a besoin de formation. Donc, on a un rapport démographique qu'il faut observer. Nous sommes aujourd'hui sur un plateau démographique, c'est-à-dire que le nombre d'actifs potentiels probable pour les années prochaines sera insuffisant pour répondre à la demande des entreprises. Alors là, il y a deux leviers. Il y en a un premier qui est très souvent commenté en ce moment, c'est la question de l'immigration. Est-ce qu'on fait venir en France massivement des gens pour des emplois de service peu qualifiés? C'est une vraie question, c'est une question politique. Ou est-ce qu'on contraint ceux qui bénéficient de l'assistance sociale ou du chômage à prendre ces emplois? Là aussi, c'est une question politique. Mais la conclusion que j'en tire, moi, c'est que le rapport offre-demande dégradé va probablement contraindre les entreprises à changer de discours. Là encore, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés m'ont tous dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que les entretiens d'embauche se sont inversés, la polarité s'est inversée. C'est à l'employeur de convaincre, de séduire les candidats. Et des candidats qui sont parfois extrêmement regardants, pour ne pas dire exigeants. Et donc, c'est probablement pour vous, madame, une nouvelle façon de séduire les candidats. D'abord, de les séduire pour les engager, mais de continuer à les séduire pour les fidéliser, car il y a une espèce de vagabondage professionnel aujourd'hui, en particulier chez les gens qui ont une formation, qui ont un savoir-faire particulier, qui vont d'entreprise en entreprise, parce que ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un groupe social de production, à une entreprise, s'effiloche progressivement.
Marine Charpentier, justement, sur ces questions qu'évoquait Pascal Perry, et puis peut-être des questions de pénurie dans certains secteurs. Je sais que dans le secteur de l'automobile, ça a été un des grands défis de ce secteur ces dernières années. Comment est-ce qu'on fait, justement, quand on est dans votre poste, pour aborder ces questions à la fois d'embauche, de pénurie?
Oui, effectivement, on connaît en fait, on connaît plusieurs événements, une conjugaison de facteurs, on va dire, dans notre métier, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de connaître la plus grande révolution technologique, je pense, depuis le maréchal Ferrand et l'arrivée de l'automobile. On a aujourd'hui un changement technologique, donc qui nous amène effectivement à avoir des évolutions dans nos métiers, mais en même temps pas si évidente que ça, puisqu'il faut faire coexister ce monde thermique avec ce monde électrique qui ne fait pas appel du tout aux mêmes compétences. En même temps, comme le disait Pascal Perry, on a une digitalisation qui aujourd'hui nous amène à avoir davantage besoin de compétences et de qualifications, clairement. On a en plus de ça, effectivement, ce problème démographique qui fait qu'on a moins de personnel, moins de candidats, et également des candidats qui sont beaucoup plus exigeants parce que le marché le permet et que finalement, si c'est pas toi, c'est un autre, donc pourquoi je viendrai chez toi? C'est vrai que c'est des questions qu'on entend. On nous demande aussi régulièrement, est-ce qu'on peut télétravailler? On va nous demander, est-ce que vous êtes flexible sur les horaires? Oui, c'est des questions qu'on n'avait pas. Alors, ça peut déboussoler, hein, parce qu'effectivement, c'est des questions qui ne se posaient pas. On n'osait pas trop parler salaire. On attendait vraiment d'être dans la shortlist, hein, pour vous demander c'est quoi les horaires? Comment je vais être payée? Est-ce que j'ai des RTT? Est-ce que... Aujourd'hui, non, effectivement, dès le premier rendez-vous, il faut brosser le tableau, oui. Voilà, quelquefois, je dis... Pas loin de la danse du ventre.
Hein. Sur ce sujet, en fait, on voit que finalement, toutes les idées un peu qu'ils pouvaient être les leurs à une époque, d'ailleurs, quelle que soit la génération, parce que j'ai du mal à ma place, même si j'ai parfaitement conscience qu'il y a un effet démographique, et c'est une des conditions mathématiques aussi de notre enjeu politique, c'est quand même de considérer que, à partir du moment où on fait comprendre aussi à une population que la mode au pays, c'est évidemment de partir plus tôt et de moins travailler. On a quand même inculqué sur ces 40 dernières années cette notion lancinante, flottante, et qui, à un moment donné, a percuté dans la tête des hommes et des femmes qui travaillent et dans les générations qui ont couvé cette idée et lorsqu'elles sont arrivées sur le marché du travail. Donc on voit bien qu'on a un effet... des multiplicateurs de ces postures parfois un peu idéologiques, même si parfois l'idéologie et la science des idées est bonne dans le débat politique et dans les actions d'un gouvernement, quelle que soit d'ailleurs sa couleur. Mais on voit que cet impact-là aujourd'hui vient se cumuler et s'additionner, y compris sur les conditions de l'homme au travail. Et je rajouterai aussi que l'homo sapiens que nous sommes tous ici dans la salle va-t-il demain être remplacé par l'homo numericus, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va frapper à la porte, qui frappe déjà à la porte du monde et de toutes les entreprises qui sont capables aujourd'hui de créer des services et d'offrir un service et de créer de l'emploi. Et donc, comme c'est les entreprises qui créent l'emploi, c'est surtout pas le politique il peut créer les conditions pour, mais c'est quand même l'entrepreneur qui prend des risques, qui investit, qui met parfois en garantie ses biens personnels, qui travaille très au-delà des 35 heures, y compris quand on est cadre supérieur d'une entreprise. Et finalement, quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça que je reviens à ma philosophie de départ. Aimer et travailler, c'est deux conditions qui se marient, qui sont indissociables. Et les opposer, c'est stupide. Il n'y a aucune société qui nous a copié dans le monde. Aucune. Pour la retraite à 60 ans et les 35 heures. Donc non. On voit bien que là aussi, dans cette affaire... Je parlerai aussi du goût au travail. Et ce goût au travail, certes, quand on reconstruit une France qui est détruite, ce n'est pas les mêmes conditions. J'ai noté des choses intéressantes. Enfin, intéressantes, tout est relatif, mais... d'abord, un que j'ai trouvé dans le livre de Pascal Péry, mais que je connaissais par ailleurs, c'était Maurice Thorez. On ne peut pas quand même
général du PCF.
Identifier ce monsieur qui a quand même été acteur avec le Conseil national de la Résistance et a un parcours politique comme d'autres, mais venant de la gauche, il dit « produire d'abord, revendiquer ensuite ouais. ». Pardon, je cite Gabriel Péry parce qu'il est là aussi, et moi je ne la connaissais pas celle-là, je connaissais celle de Thorez, mais Péry dit « tout travail mérite salaire, mais tout salaire réclame travail ». Et donc, on a des hommes qui ont vécu une période de la reconstruction de la France, et j'allais dire, tous ces descendants qui ont été biberonnés par cette, j'allais dire, gaulliste et communiste, on a quand même libéré la France ensemble, peut-être pas dans la même temporalité, avec la même volonté, mais entre De Gaulle et les autres, c'était des valeurs qui étaient... comment dire, qui faisait partie voilà, des murs porteurs de la France en reconstruction. Et donc, comme on a un pays qui est tout le temps en reconstruction, et y compris d'ailleurs depuis 2007 avec la première crise internationale avec les subprimes, 2007, ça fait maintenant quelques années que nous vivons aussi une succession de crises. Et quand on vit une succession de crises, c'est plus une crise, c'est un mouvement. Et dans ce mouvement, comment l'homme et la femme peut-elle se positionner pour participer et même pour s'associer à la croissance, richesse fiscale et richesse sociale, dont les entreprises publiques, ici, modestement, je représente, parce que ce mot entreprise publique, en 2014, avait fait un peu de mouvement, en me regardant et en me disant, mais on ne comprend pas, entreprise publique, c'est service public. Mais pourquoi le mot entreprise serait-il réservé au privé ? dans le monde entreprise, il y a des hommes et des femmes qui entreprennent. Ouais. Et qu'on soit agent de la fonction publique ou salarié d'un privé, mais quoi ? Pourquoi on cloisonne les choses ? On les a cloisonnées à la reconstruction de la France. Aujourd'hui, il faut aspirer et il faut respirer différemment en décloisonnant et en mettant l'homme au cœur de la machine. Les entreprises, notamment avec une option de management familial, savent le faire. Et ici en particulier, je suis très heureux que le groupe Fori, parce que c'est une grande fierté pour nous, d'avoir quand même une entreprise qui a démarré de rien, d'un camion et à aujourd'hui. Je n'en connais pas le nombre de camions, mais plusieurs milliers et plusieurs emplois sur le territoire national. Donc on voit bien qu'on a aussi besoin d'un entrepreneuriat avec un management RSE, parce que c'est la mode. Mais le RSE, les entreprises familiales, ça fait très longtemps qu'elles le font. Enfin, on a inventé la mode au pays, mais enfin les entreprises familiales, elles le font, elles savent faire. Et elles savent aussi conserver leurs salariés avec une organisation, sans doute du temps de travail, des outils et autres. Donc il y a sûrement une différence aussi entre l'emploi, j'allais dire parisien, des grandes capitales internationales, et l'emploi aussi plus résidentiel, plus local.
Juste deux mots, puisqu'on fait un peu d'histoire. En effet, je crois que c'est assez peu contestable, la gauche du XXe siècle était une gauche du travail. Frédéric cite Thorez, Gabriel Péri, qui était le ministre de l'économie du Front populaire, et puis il y a ceux qui leur succèdent ensuite, qui sont tous très attachés au travail et à la feuille de paye. C'est-à-dire qu'on a globalement en France, jusqu'au début des années 2000, et probablement même un peu plus, jusqu'à 2005-2010, une gauche qui est la gauche du travail, qui défend la situation des salariés, qui milite avec les organisations syndicales pour l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation des salaires. Et puis il y a un rapport absolument décisif, un peu passé inaperçu en 2012, qui est le rapport de Terra Nova, qui dit en substance à la nouvelle gauche, on va l'appeler comme ça par commodité de langage, votre réservoir de voix, ça n'est plus la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière, je simplifie les choses, a été corrompue par la bourgeoisie et par le capitalisme, c'est-à-dire la classe ouvrière s'est convertie aux idéaux de la société de marché. Votre électorat, c'est plutôt les banlieues, et une partie des populations défavorisées sans travail. Et donc, ça conduit à changer le logiciel de la gauche. Vous avez vu, d'ailleurs, pendant la réforme des retraites, une fois encore, ce que je dis n'a pas vocation à faire polémique, ce sont simplement des constats. Moi, j'ai été surpris pendant les manifestations hostiles à la réforme des retraites de lire sur des pancartes « Métro, boulot, caveau ». Alors qu'en France, on a des retraités qui vivent pour les femmes 21 ans après leur départ en retraite et pour les hommes entre 19 et 20 ans.
Avec des variations quand même
avec des variations importantes
selon le niveau social.
En fonction de la pénibilité, etc. Mais c'est un élément qu'on a déjà intégré, la pénibilité. C'est-à-dire que la moyenne de départ en retraite aujourd'hui en France est autour de 60 ans. Quand vous intégrez, si vous voulez qu'on fasse une moyenne, elle intègre des éléments extrêmement divers. Le départ en retraite, et c'est le temps de travail dans une vie. Ce n'est pas le temps de travail hebdomadaire, là. C'est le temps de travail dans une vie. Ça intègre des salariés des entreprises publiques ou des services publics qui partent plutôt à la retraite. Alors, c'est tout à fait légitime et ça compense un salaire qui est souvent un salaire inférieur. Puis vous avez des gens qui partent à la retraite un tout petit peu plus tard. J'ai lu aussi, au moment de la loi El Khomri, ni loi ni travail, où Sandrine Rousseau déclarant « Et si on remplaçait le capitalisme par une bonne sieste ?» Donc vous avez aujourd'hui une philosophie dans la société qui est une philosophie du non-travail. Elle n'est pas, elle a pas totalement infusé la société. Elle trouve un écho dans une partie de la population qui conteste la fonction du travail. Et en effet, la période du Covid et la période post-Covid posent des problèmes aux dirigeants d'entreprise parce que ça pose un problème en matière d'organisation du travail et des missions. Et ça arrive à un moment où une révolution technologique change radicalement la fonction de production dans la société. Donc ça suppose que nous devons collectivement nous interroger. Et je pense que la question à poser aux jeunes aujourd'hui, à ceux qui sont concernés, qui rentrent sur le marché du travail, c'est celle de l'histoire. Est-ce qu'on maintient en France un haut niveau de protection sociale financé par le travail ? C'est-à-dire un monde dans lequel chacun produit ses droits. Vous voyez, c'est plus à votre bon cœur, monsieur, dame. C'est j'ai cotisé, j'ai droit à une retraite, j'ai droit à une protection contre les aléas de la vie. C'est la question qu'il faut poser aujourd'hui, parce qu'à défaut, on bascule d'un modèle qui est pour les économistes celui de Bismarck, puisque la retraite par répartition et solidarité intergénérationnelle a été inventée en Allemagne au 19e siècle, elle est arrivée en France pendant l'occupation de l'Alsace-Moselle. Et puis quand la guerre s'est achevée, on s'est aperçu que ça marchait. Et donc on a voulu ensuite généraliser ce modèle. Et c'est un modèle presque unique dans le monde, qui est un modèle que tout le monde nous envie. Donc c'est une question qu'il faut poser aujourd'hui. Est-ce qu'on continue à vivre dans la société du travail, ou est-ce qu'on s'oriente définitivement vers la société du temps libre et des loisirs, en précisant aussi qu'une société de service est une société en râteau, dans laquelle il y a très peu d'hiérarchie et beaucoup de petites mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peu d'hiérarchie et beaucoup de petits salaires. Alors on ne peut pas tout à la fois nourrir l'ambition du pouvoir d'achat et la volonté de moins travailler. Je me répète, mais c'est la quantité et la qualité de travail, c'est-à-dire la productivité, l'efficacité du travail de chaque heure travaillée qui produit le modèle dans lequel nous vivons et qu'on ne veut pas abandonner. Voilà la question qu'il faut poser.
Vous posez la question justement de la question des salaires, qui est une question importante. Oui. On a parlé de la valeur travail comme valeur culturelle, il y a aussi la valeur travail comme valeur numérique. Quand dans les années qui ont suivi l'après-guerre, quand se construit cette France du travail, on est dans un moment où la valeur travail est largement et mieux partagée au sein de la société. La valeur produite par le travail est mieux partagée. Est-ce que aujourd'hui, il y a une question qui se pose sur les salaires, sur l'écrasement des bas salaires le fait qu'aujourd'hui, les salaires augmentent moins en France, par exemple, qu'ils ne peuvent le faire dans d'autres pays où on peut avoir les problèmes de recrutement, les problèmes de pénurie qu'on constate ici. Est-ce qu'il y a une question sur les salaires, et notamment sur les salaires de certains emplois qui sont un peu essentiels à la société ?
Oui, alors moi je parlerai simplement pour l'entreprise publique que je connais, pour la gérer. Les impacts de la crise que nous vivons, la crise du pouvoir d'achat et ce qu'on appelle le panier de la ménagère ou le panier du ménager, d'ailleurs il faudrait le transformer en masculin également, c'est évidemment que les salaires aujourd'hui face à la vie chère, ils sont trop bas. Moi je ne cesse de le dire, notamment pour les petits salaires dans la collectivité, il manque 300 euros par mois, à l'évidence. Mais pour avoir une augmentation de 300 euros par mois, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la productivité et la compétitivité qu'il faut générer pour générer ces 300 euros. Et quand on génère 300 euros net dans le porte-monnaie du salarié, c'est pas la dépense de l'entreprise, parce que ça lui coûte deux fois à deux fois et demi plus toute charge comprise. Donc on voit bien que la logique qui consisterait là aussi à avoir des revenus supérieurs, qui sont nécessaires socialement aujourd'hui, enfin on a un appauvrissement d'ailleurs des classes moyennes, des classes inférieures, j'allais dire, elles vivent toujours chichement depuis 50 ans et certainement, malheureusement, elles continueront de le faire. La différence, c'est que la part sociale augmente, et la générosité sociale du modèle social français qu'il faut non plus sauver, qu'il faut préserver. Parce que si on est, pour répondre à la question de Pascal Perry, entre solution A et solution B, à l'évidence que peut-être certains libéraux et d'autres finiraient par écarter la solution A du système de répartition et de la richesse de répartition et donc de la redistribution sociale. Mais pour autant, ça fait la force et ça fait la multiplicité des amortisseurs sociaux qui nous ont permis quand même de passer les crises depuis 15 ans qui nous arrivent simultanément. Qui aurait imaginé une crise pandémique ? Qui aurait imaginé la crise climatique il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans ? Qui aurait... Sans doute, oui, on pouvait l'envisager, une crise économique en général et une crise internationale comme on la vit, qui aurait imaginé la crise financière qui est née des subprimes aux États-Unis et qui s'additionne les unes aux autres. Donc on voit bien que ce modèle-là, punaise, on a tout intérêt, nous, Français, à raisonner, pardon de le dire, mais très égoïstement, pour nous d'abord. Et que je dis nous d'abord, c'est pas un argument politique ou politicien, c'est nous d'abord dans un modèle-là, qui est le nôtre. Et comme il fait quand même le regard parfois interrogatif de tout un tas de continents à l'étranger, est-ce qu'on peut parler quand même de conditions de vie au travail en Chine ? Est-ce qu'on peut parler quand même des conditions sociales aux États-Unis ? Et pourtant, ce sont deux continents qui bouleversent l'économie mondiale. Et nous, au milieu, on fait quoi ? on attend d'être bousculé d'un côté gauche ou d'un côté droit, ou est-ce qu'on a une capacité peut-être à raisonner nous-mêmes, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire en fait avec des vocations qui viennent reconstruire les bases de l'après-guerre et les bases de notre contrat social qu'on a su quand même mener et pour lesquelles quand même on a cette France qui est quand même un pays merveilleux, il suffit juste de le quitter pour se rendre compte que la France quand même... c'est un pays hyper attractif, y compris d'ailleurs dans ses politiques sociales, et qui rejoint parfois quelques interrogations que nous avons devant nous hein, face à une migration possible. Mais l'immigration possible, on en est sorti aussi de l'après-guerre avec une économie aussi croissante où on a été chercher une immigration et une migration européenne, hein, italien, portugais, espagnol, Europe de l'Est. Et puis maintenant, ça dépasse notre continent avec le continent africain, Moyen-Orient. Et donc, on voit bien aussi les questions que ça peut poser sur la stabilité des choses. Et donc, oui, il faut, je l'avais noté là aussi, pas que protéger, mais préserver notre modèle social. C'est indispensable. Et donc, si on le protège et si on le préserve, eh bien, sans doute qu'on pourra augmenter les salaires. Mais ce n'est enfin, c'est pas l'un sans l'autre.
Sur la question des salaires, le rêve des étatistes en France, c'est de supprimer le paritarisme. Le paritarisme, c'est la gestion paritaire des organismes sociaux par les organisations syndicales. Moi, je pense que c'est un acquis qu'il faut préserver. C'est un modèle solide, robuste, plutôt bien géré. Quand je vois, par exemple, les résultats d'Agir Carco, gérés par les partenaires sociaux, 60 milliards d'euros de réserves, des excédents cette année, je me dis que finalement, les partenaires sociaux sont meilleurs gestionnaires que l'État. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, s'agissant des salaires, c'est que nous sommes dans un modèle très particulier. Il y a en France ce qu'on appelle le coin social. Le coin social, c'est l'écart entre le brut et le net. Et il est en effet très significatif, il est important, parce que ce coin social finance précisément la protection sociale en France. On peut considérer qu'une partie de ce que chaque salarié perd chaque mois, quand il regarde sa feuille de paye, il voit qu'il y a un écart important entre le salaire brut et d'ailleurs, souvent, il ne voit pas le coût complet. Parce que l'entreprise paye, cotise pour sa protection sociale, retraite, maladie notamment. Donc, il y a un écart qui est très important. Et il va retrouver cet écart dans sa retraite, par exemple. On peut considérer donc que ça n'est pas du revenu immédiat ou que c'est renoncer à du revenu immédiat pour bénéficier un jour de revenus différés, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a, depuis une dizaine d'années, une politique sociale qui est centrée sur la quantité. Elle est quantitative. Quand le président Hollande décide de mettre en route le pacte compétitivité-emploi, en réalité, il n'y a pas de compétitivité dans son plan, mais il y a beaucoup d'emplois. Et donc, on va concentrer toutes les aides fiscales et sociales autour du SMIC. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que le SMIC est une trappe à bas salaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on y est entré, on a du mal à en sortir. Et c'est un vrai problème parce que ça nourrit la frustration. Vous avez des gens qui sont assignés à vie à des salaires qui sont soit au SMIC, soit juste au-dessus. Il y a un petit peu plus de 2 millions de personnes payées au SMIC en France, et vous en avez 4 millions qui sont payés entre 1500 et 1700 euros. Donc ça fait 6 millions de salariés sur 20 millions de salariés du secteur privé qui sont aujourd'hui assignés à des salaires bas. Donc il faudrait changer les politiques sociales et fiscales. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir maintenir tous les dispositifs qui encouragent à la création d'emplois valorisés. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est ce que j'évoquais. Dans une société de services, dans une société servicielle, non productive, non industrielle, il y a peu de valeur ajoutée. Et donc, comme il y a peu de valeur ajoutée, il y a peu de distribution de revenus. Il n'y a pas grand-chose à se partager, si vous voulez. Et donc, ça produit une quantité d'emplois, une importante quantité d'emplois, autour de très bas salaires. Et puis, il y a quatrième élément, la proposition que je formule dans cet ouvrage, qui est de dire qu'il faut reconnaître qu'il y a en France des emplois qui sont socialement utiles. Et on l'a pleinement découvert au moment du Covid. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ce qu'on appelait les salariés de première ligne, les salariés du monde agricole, les salariés de l'industrie de transformation agroalimentaire, les salariés du secteur du commerce qui étaient là, mais aussi les services publics qui étaient disponibles, souvent des fonctionnaires de catégorie C, c'est-à-dire plutôt mal payés, cette France-là mérite d'être mieux payée. Donc il y a en France des emplois qui sont socialement utiles et économiquement déconsidérés, qu'il faut absolument revaloriser si nous voulons rendre le travail attractif. À défaut, ça entretiendra dans le halo du non-travail des gens qui considéreront que finalement l'assistance est préférable au travail, et c'est le pire des pièges dans lequel nous pouvons tomber.
Marilyn Charpentier, de votre entreprise, de votre poste, est-ce que vous voyez la question du salaire déjà comme une attente principale on a parlé des nouvelles attentes des travailleurs. Est-ce que le salaire reste toujours une des questions principales, ou est-ce qu'elle est une question parmi d'autres? Et puis après, j'aurai une autre question, mais je vais déjà vous poser celle-là.
Alors, au niveau du salaire, je pense que tout le monde attend d'être payé pour ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on constate qu'il y a un prix de marché, notamment dans notre profession. Ce prix de marché, il a beaucoup progressé depuis ces dernières années, hein, du fait de tout ce que vous venez d'évoquer. Et effectivement, on a pu constater des déséquilibres avec les gens qui étaient dans nos entreprises depuis parfois assez longtemps, qui se retrouvaient challengés par des jeunes gens qui arrivaient et qui revendiquaient un salaire équivalent, voire plus important. Donc c'est très difficile pour une entreprise de gérer ce genre de problématiques, parce qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise, elle a besoin de prospérer. Les salaires, les investissements qu'on fait, de toute façon, c'est le résultat de l'entreprise. Si l'entreprise ne prospère pas, elle n'a pas beaucoup de moyens. Donc nous, prenant conscience de ces effets-là, on n'a pas attendu, si vous voulez, que le gouvernement lance l'injonction auprès des branches professionnelles pour regarder ses salaires. Notre président s'est saisi de la question dès l'été 2020, a revalorisé et reconstitué toute la grille des salaires de nos salariés. Mais bien évidemment, on ne peut donner que ce qu'on a, que ce qu'on gagne. Et que, évidemment, pour que les salaires évoluent plus que ce qu'ils n'évoluent actuellement, il faudrait effectivement produire plus et générer plus. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que dans nos entreprises, les salariés qui arrivent, comme dans toute branche professionnelle, on a des grilles de salaire. C'est-à-dire que vous avez un positionnement qui fait référence à vos compétences, à votre échelon, etc. Ça, c'est très bousculé, parce que il y a une chose qui n'est pas concevable pour un travailleur, c'est au bout du bout d'avoir plus de mal à finir le mois en travaillant qu'en vivant des aides sociales. Moi, je l'entends quelquefois. On me dit, vous savez, si je faisais du black ou si je n'aurais pas de frais de ceci. Et d'ailleurs, vous le dites hein, dans votre livre, hein, quelquefois, aller travailler, ça a un coût. Mais en même temps, les arbres ne montent pas au ciel. On ne peut pas donner plus que ce que ça rapporte. Et à un moment donné, il faut quand même garantir la prospérité d'une entreprise. Voilà. Et puis sur le plan générationnel, je vous dirais que on a l'avantage, nous, d'avoir vu arriver la quatrième génération dans l'euphorie. Donc notre directrice des ressources humaines qui accompagne le développement humain à 26 ans, le directeur des marques à 29 ans. Donc vous imaginez bien que les aspirations des jeunes, ce sont les leurs. Ils sont bien dans leur époque, bien dans leur temps. Et que ça a beaucoup apporté, nous aussi, au regard qu'on porte. Moi, je suis mamie, hein, j'ai plus d'enfants. Donc, à 62 ans, je ne porte pas tout à fait le même regard que cette jeunesse-là. Elle nous a bien bousculés, elle nous a bien aidés à prendre les choses à bras-le-corps. Et voilà, et ça, c'est un gros avantage pour nous, effectivement, de travailler avec la quatrième génération. Voilà.
Pascal Perry parlait tout à l'heure de mismanagement, que je comprends comme une forme de mauvais management dans les entreprises, qui peut générer de la frustration chez les travailleurs. Et justement, vis-à-vis de ce concept de travail, on peut rappeler que l'étymologie disputée, je crois, c'est trepalium en latin, qui est là un instrument de torture. Mais je crois que c'est disputé, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour revenir à la question, c'était la question de... Est-ce que les entreprises doivent changer pour rendre le goût du travail aux travailleurs? Et est-ce que les entreprises peuvent bénéficier également d'aménagements, des changements que les nouvelles attentes des travailleurs peuvent occasionner?
C'est obligatoire. Parce que si vous n'évoluez pas, c'est comme les dinosaures, vous disparaissez. Donc c'est une question de survie, bien sûr. On a besoin... Enfin, une entreprise n'existe pas sans les hommes. Ça, c'est indéniable. Nous, on a l'avantage de représenter tout un spectre de petites entreprises. On va de 3 ans salariés pour la plus petite à 135 pour la plus grande. On a des représentants syndicaux, on a des représentants du personnel, on a où il n'y en a pas. Et c'est sûrement l'avantage hein, par rapport à toutes ces grandes entreprises, c'est qu'on a un management de proximité, on est dans un ancrage local fort. Donc j'ai envie de vous dire que bah, on fait ce qu'il y a à faire et quelquefois même on n'a pas attendu qu'on nous le dise. Voilà, on a pris les devants et on avance comme ça. Mais Dieu merci, je pense que beaucoup de petites et moyennes entreprises avancent comme nous sans attendre qu'on légifère sur les différentes choses qu'il faut mettre en place socialement. Ouais.
Une dernière question peut-être avant d'ouvrir les questions de notre public. On est face à trois très profondes mutations qui arrivent devant nous. La mutation technologique et numérique, avec notamment l'émergence de l'intelligence artificielle, la transition écologique et le vieillissement très profond de la population. Ça va changer énormément de choses dans le travail de demain. Comment est-ce qu'on se prépare au métier de demain, à préparer la formation, l'organisation des entreprises, que ces trois grandes révolutions sont déjà en train de provoquer, mais ça va encore s'amplifier dans les prochaines années?
Alors, je crois quand même que les entreprises, et si elles étaient sur ce plateau, elles pourraient témoigner, elles sont déjà dedans, hein, donc elles n'ont pas attendu que la société s'interroge sur ça. Oui, évidemment, la formation, elle est tout au long de la vie, donc c'est l'évolution de la personne qui peut d'ailleurs rentrer par la petite porte et dans sa croissance de vie dans l'entreprise, 40 ans après, peut sortir par une porte différente, voire une grande porte. Et 40 ans finalement de travail, c'est peu. C'est-à-dire on dit toujours dans le rouleau de l'humanité, hein, celui que, dans lequel nous sommes et que nous tournons, la place de l'individu, c'est quoi ? C'est la longueur du stylo dans le rouleau de l'humanité. Donc on voit bien que finalement, le temps que nous sommes humains dans notre temps de vie et temps de passage, et pire encore, le temps où seulement nous avons à travailler pendant seulement 40 ans, diable, 40 ans, ça fait loin, mais enfin, ça passe très vite. Et surtout, ça passe très vite quand on doit évoluer dans la société. Et donc, toute condition humaine qui consiste à dire bah, « moi, je vais évoluer, moi, je vais vivre, mais sans la cause du travail bah, », écoutez, elle a deux occasions. Un, de s'isoler socialement et d'être dans une forme de précarité intellectuelle et d'utilité de la place de l'homme dans la société. Donc, les entreprises, elles savent très bien que si elles veulent progresser, si elles veulent se développer, elles ont tout intérêt, évidemment, d'avoir tous les bons outils. Je pense qu'aujourd'hui, elles s'y préparent. L'arrivée de l'homo numericus ne va pas non plus remplacer l'homo sapiens comme ça du claquement de doigts du jour au lendemain. Parce que d'abord, l'IA, l'intelligence artificielle, elle ne fait aujourd'hui que commenter ce qui s'est passé. L'IA, aujourd'hui, elle ne commente pas sur ce qui va se passer. Elle n'a pas de vision. Même si elle est intelligente, mais elle ne va pas vous prédire ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans. L'homme peut le faire. Donc je pense que l'homme a encore sa place, toute sa place. D'ailleurs, demain matin, nous aurons avec les professionnels de la chaîne du livre un débat sur l'intelligence artificielle et la place de l'intelligence artificielle dans la chaîne du livre et sur le plan technique, industriel et juridique. Donc je vous encourage demain matin à écouter ce débat. J'y participerai également, mais ça sera aussi une cause intéressante. Et puis la troisième raison, on revient toujours au même phénomène, c'est que nos aînés nous ont appris le goût de l'effort, nous ont appris le goût au travail et donc le partage du fruit du travail. Enfin, moi j'en vois pas d'autres. Hein. C'est un trépied, mais on arrive à être équilibré sur un trépied si on sait justement avoir une bonne répartition des charges entre les uns et les autres. Et puis, franchement, l'homme ne doit pas non plus tomber dans une espèce d'égoïsme. Vous savez, moi j'ai été parlementaire il y a 21 ans. Il y a 21 ans, je m'étais intéressé à la cause de l'allongement de la vie, la cause de la vieillesse. D'ailleurs, on est tous concernés un jour dans cette salle. C'est qu'une question de temps et une question de mobilité et d'autonomie. Mais quand je vois qu'on a dépensé des milliards d'euros de 83 à aujourd'hui sur la retraite, pour financer la retraite à 60 ans, quand je vois qu'on a dépensé des milliards d'euros pour expliquer aux Français qu'il fallait moins travailler pour la cause du temps de travail... Tous ces milliards d'euros qui vous appartiennent tous, hein, quelque part un peu à chacune de vos poches, avec cet argent-là, on aurait peut-être pu financer la cause sociétale, nationale du grand âge. Parce que le grand âge, demain, il faut créer le cinquième risque. Il est créé dans une ligne budgétaire du PLFSS, mais quand on regarde le PLFSS, il y a 0 € pointé. Et là, franchement, je trouve que la cause sociale et sociétale à la française... cette cause dont le travail produit cette richesse qui permettra de financer cette cause de l'allongement de la vie. Et c'est tant mieux parce que les médecins font des progrès, les médicaments font des progrès et on vit de plus en plus vieux. C'est tant mieux, c'est génial quand même comme espèce d'invention. Et même l'IA ne pourra pas faire mieux que cela. Donc voilà, moi la cause c'est celle-là Et il faut qu'on arrive à inverser ou du moins à permettre à la société d'observer les choses différemment. Et il n'y a rien de plus pire, et j'en finirai sur ce point de vue, que les certitudes. Les certitudes, elles sont quand même très mauvaises conseillères, y compris quand c'est des politiques qui les assènent. Regardez comment on est sorti de l'idée qu'il fallait tuer hier le nucléaire. On était à deux doigts hein, de basculer dans l'anti-nucléaire comme l'Allemagne. Une des vertus, j'en connais au moins une, mais ça s'arrêtera là, de la crise russo-ukrainienne, c'est qu'en fait on a compris que finalement aux portes de l'Europe il y avait une crise et qu'on a compris qu'au bout du gazoduc on pouvait monter les prix, voire fermer le robinet pour faire monter le marché, donc nous faire payer à nous consommateurs, petits consommateurs diables, de nous chauffer, d'avoir de l'eau chaude et d'avoir une énergie pour mettre dans nos moteurs, eh bien on a vu que ces crises-là, enfin que ces idéologies-là, que ces certitudes-là pouvaient être complètement stupides dans la mesure où on a failli basculer comme l'Allemagne. Et donc je n'entends plus d'ailleurs ces prophéties.
Non, ils sont moins bavards.
Ils sont moins bavards.
Moins bavards.
Et donc heureusement que la France, enfin voilà, est restée éveillée et s'est réveillée sur cette question de l'énergie à partir du nucléaire.
Juste deux minutes parce qu'il faut pouvoir échanger sur la question d'innovation. Les entreprises sont un des derniers territoires français où on innove parce que c'est un monde darwinien. Darwin, c'est la théorie du risque. Je ne m'adapte pas, je disparais. Il y a le tribunal de commerce qui n'est jamais très loin. Quand une entreprise est en situation de cessation des paiements, elle passe par la barre du tribunal de commerce et soit elle se redresse, soit elle disparaît. Donc il y a au fond une espèce de contrainte. C'est pour ça que c'est darwinien. On est obligé de s'adapter quand on vit dans une entreprise sur un marché qui est un marché ouvert. Vous posez la question de l'intelligence artificielle. Deux réflexions très rapides. D'abord, l'intelligence artificielle ne va pas changer les métiers. Chaque mot a de l'importance, mais les tâches. Prendre un exemple très simple. Prenez le métier de pharmacien. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de traiter, grâce à des algorithmes, les maladies de longue durée. Elle est capable d'ajuster un traitement. Donc si la fonction du pharmacien, c'est simplement d'être un distributeur de boîtes, le pharmacien disparaît. En revanche, s'il transforme son officine, si elle devient un espace clinique de santé, le pharmacien n'est plus substituable. Même chose pour un certain nombre d'avocats. Même chose pour les professions du chiffre. L'intelligence artificielle fonctionne à la vitesse de la lumière et notre intelligence fonctionne à la vitesse du son. On est donc battu. S'il s'agit de compiler des données pour fabriquer un bilan, l'intelligence artificielle le fera plus vite. Si en revanche, l'expert comptable devient ingénieur financier des entreprises, accompagnateur de la croissance des entreprises, architecte du haut de bilan, appelez ça comme vous voulez, il a sa place. Et ma deuxième réflexion, c'est de dire que pour réussir ce pari-là, il faut non seulement des gens qui soient volontaires, mais des gens qui soient formés. Ma grande inquiétude à moi, c'est qu'en 5 ans, nous avons divisé par 2, pardon, le nombre de bacs scientifiques en France. Il y a 5 ans, on formait 190 000 bacheliers scientifiques chaque année. Nous en sommes à 89 000. Ça veut dire que sur les métiers non substituables, sur les métiers qui sont les métiers de l'intelligence de demain, nous sommes absents. Notre système scolaire est absent. Alors, il y aura un autre débat. Pourquoi ? Par renoncement, par lâcheté, par idéologie, par biais politique. Mais cet enjeu de l'école qui non seulement apprend le sens de l'effort, mais apprend aussi les compétences qui seront les compétences du 21e siècle, c'est, à mon sens, le premier des débats qu'on doit avoir dans la société.
Et c'était le premier débat que nous avons dans ce cycle de temps présent. Malheureusement, on me dit qu'on n'aura pas avoir le temps d'avoir des questions de la salle, mais je remercie infiniment Pascal Perry, Frédéric Soulier, Marilyn Charpentier. Merci. Pour vos éclairages, pour vos analyses, pour votre regard. On va continuer à parler travail tout au long de ce week-end et puis vous pouvez retrouver Pascal Perry au stand de l'Archipel et puis Frédéric Soulier, Monsieur le maire, lors des prochains débats. Merci à vous et bonne suite de foire.